Cette semaine, on parle à un homme engagé, à un environnementaliste, à un politologue, à un politicien, à quelqu'un qui a changé les choses dans la MRC, Maria Chapdelaine. On jase là avec Denis Trottier. Donc, on est aujourd'hui avec Denis Trottier, avec qui on va jaser. Eh oui. Bonjour, Denis. Ça va bien?
Bonjour. Oui, ça va très bien.
Denis, ça va être difficile de faire juste une heure avec toi parce que tu as une vie absolument remplie. Tu es un gars qui s'est impliqué beaucoup. Mais avant d'arriver à ça, moi, je veux en apprendre sur Denis Trottier. Denis Trottier, toi, tu es né où, Denis?
À Dolbeau. Je suis né dans la maison à côté de chez nous, chez mon grand-père, puis tout de suite après, on est déménagé et j'ai resté 57 ans avec la même adresse parce que quand je suis allé aux études, je gardais la même adresse que chez nous pour pas faire de changement d'adresse, c'est ça. Puis j'ai racheté la maison chez nous, ça fait que finalement, j'ai changé d'adresse une fois dans ma vie pour m'en venir ici à Péribonka.
Puis c'était comment la vie chez les Trottier quand tu étais jeune?
Nous autres, on trouvait que c'était une vie bien normale, mais en jasant avec des amis, je me suis aperçu que chez nous, on avait plus de liberté qu'ailleurs. C'est de mes amis qui me disaient, Denis, chez vous, vous avez le droit de faire ça, là, mais nous autres, chez nous, on n'a pas le droit. Là. Nous autres, la liberté pour nous autres, chez mes parents, c'était quelque chose d'important. Tu sais, c'est qu'ils disaient, il faut que tu apprennes à vivre avec ça, puis il faut que tu gères ça. Puis c'est un peu, mettons, comme mon père, il disait que l'heure que tu rentres, là, c'est à toi de décider ça. C'est en fonction de l'heure que tu es capable de te lever le matin. Si tu veux rentrer à 7 heures le matin et que tu es prêt à travailler à 8 heures, j'ai pas de problème avec ça. Fait que c'est comme ça que ça marchait. Ça m'est déjà arrivé d'avoir fait des nuits assez courtes puis d'avoir des journées assez longues par la suite, mais c'était correct comme ça. Puis moi, j'ai gardé le même esprit que mes enfants. Je pense que si on veut que les gens puissent se prendre en main, puissent décider, il faut leur laisser de la liberté, mais leur dire qu'il y a une responsabilité qui va avec ça. La liberté... C'est pas de tout faire sans responsabilité, c'est de décider, mais d'accepter toutes les responsabilités qui vont avec.
Puis d'accepter qu'il peut y avoir des erreurs, que vont être une partie de l'éducation que tu vas faire. Tu sais, à un moment donné, tu vas apprendre des choses avec les erreurs que vont t'avoir permis cette liberté-là.
Comme on disait quand tu étais jeune, là, comment que tu diras 200 fois ton enfant, touche pas au rond du poêle. Ça peut arriver que la tentation, là où que je me rappelle avec des amis, quand on était jeune, on était averti qu'il fallait pas licher les morceaux de métal. Mais j'ai deux de mes amis à qui c'est arrivé, puis ils savaient, mais bon, c'est l'expérience, c'est ça. On est jeune, on pense qu'on fait bien, mais on s'aperçoit que il y a des affaires sur lesquelles il faut réfléchir encore un peu.
Il faut essayer. On ne peut pas être protégé de tout. Il faut essayer des choses.
Non. Parce que, tu sais, mettre quelqu'un dans un cocon, puis de lui enlever toute possibilité d'erreur, c'est probablement la chose la plus terrible qu'on peut faire, parce que dans le fond, c'est qu'on apprend beaucoup plus de nos erreurs qu'on peut apprendre des erreurs des autres. Des fois, tu vois les autres, mais tu dis, moi, je ne ferais pas ça pareil. Mais quand toi, tu as essayé puis ça n'a pas marché, tu t'en rappelles.
Oui, c'est clair. T'as un frère que je connais, mais t'as-tu d'autres frères et sœurs?
Oui, nous autres, trois frères, deux sœurs.
OK. Puis comment c'était la relation avec tes frères?
Je dirais que... C'était très bien. De toute façon, nous autres, on a passé tous nos étés au chalet. Ça fait que là, c'était... Puis il y avait beaucoup de cousins et de cousines. Ça veut dire que dans le fond, c'est que nos relations étaient plus avec nos cousins et nos cousines qui étaient aux alentours parce qu'on avait des gens du même âge. Là. Chez nous, il y avait six familles de six enfants. Ça fait qu'il y avait de quoi là, pouvoir s'amuser. Ça fait que chacun allait avec les enfants de son âge. Ça fait qu'à ce moment-là, c'était pas la vie de famille. C'était la vie de la grande famille.
Ouais.
Moi, j'étais avec mes cousins du même âge que moi, puis mes frères, mes sœurs étaient avec leurs cousins et leurs cousines du même âge. Fait que c'est comme ça que ça se passait.
On connaît le plus vieux, toi?
Oui, okay. Le plus vieux, premier.
Tu avais de la responsabilité?
Oui, mais disons que c'était pas une préoccupation de dire il faut que le plus vieux donne l'exemple. Ça, ma mère m'a jamais dit ça, là. Ça faisait partie, donc je pense que... Nos parents nous faisaient confiance.
Ouais.
Puis aussi, c'est que, tu sais, c'est qu'on avait droit, entre guillemets, à faire toutes sortes d'affaires, là, de la chaloupe, parce qu'on avait chaloupe, motoneige, etc. Puis, bon, puis on apprenait à conduire, on apprenait des affaires, mais en le faisant.
Ouais.
Tu sais, c'était pas... Il n'y avait pas de... Ma mère s'inquiétait qu'on puisse se noyer. Ça, c'était une grande inquiétude. Puis souvent, quand on était dans l'eau, elle disait, venez-vous-en au bord. Mais il fallait savoir que son frère était mort dans une noyade. Ouais. Ça fait que c'est sûr que pour elle, c'était important.
C'est
mais dans le fond, on a appris à nager. Puis finalement, ça s'est passé là, de façon assez joyeuse. Moi, j'ai eu une très belle enfance. Puis pourquoi je reste à Péribonka? C'est entre autres parce que j'ai beaucoup aimé mes années de vie à Péribonka quand j'étais jeune. Tu sais, profiter du lac Saint-Jean, de la rivière, de la beauté des paysages. Ça, c'est encore aussi important pour moi aujourd'hui qu'avant. Puis je suis ici parce que j'ai eu une belle jeunesse à Péribonka.
Wow, wow, c'est le fun d'entendre ça. Puis comment il était Denis à l'école, comme enfant, comme étudiant?
C'était un enfant très docile les sept premières années. Là, moi, j'étais dans les premiers de classe. J'étais premier ou deuxième. Là, il y avait toujours une compétition là, avec un de mes amis, Marc, comment il s'appelait? Bon, je ne me rappelle plus de son nom. Mais puis moi, j'étais très studieux. J'apprenais tout par cœur. J'étais très, très bon. Mais quand je suis arrivé en huitième année, là, ça a comme débourré. Puis là, les études, c'était secondaire par rapport à toutes sortes d'autres choses. Et là, ça allait pas mal moins bien dans mes notes. Là, ma mère était découragée parce que le frère directeur m'avait offert de sauter ma huitième année parce que j'avais fini premier des trois septièmes années à l'époque. Ça fait qu'il faisait ça de temps en temps. Puis là, ma mère avait dit, « Ah non, toi, semaine, il va faire sa huitième année, il va se ramasser trop avec du monde trop vieux. » Puis finalement, un peu plus, puis j'aurais doublé ma huitième année parce que là, j'étudiais plus beaucoup. J'étais pas mal moins studieux. Je découvrais toutes sortes d'affaires.
L'adolescence a pris le dessus.
C'est ça.
Les premiers amours, les amis, la gang.
C'est ça.
T'as tout ça de beau.
Oui. Puis Dolbeau, j'ai aimé Dolbeau comme j'ai aimé Péribonka. C'est les deux grands amours de ma vie. Là.
Avec Daniel?
Ça, oui. Ça, c'est la grande amour que j'ai eue. Moi, j'ai eu une vraie blonde. Tu sais, j'ai eu des petites amies, là, mais j'ai eu une vraie blonde dans ma vie. Puis c'est ma blonde Daniel.
Tu l'as rencontrée à quel âge?
Je me rappelle d'avoir vu sur le boulevard, je ne la connaissais pas, mais elle avait un grand manteau maxi. C'était la première fois que je voyais quelqu'un avec un manteau maxi. Elle avait les cheveux courts, puis elle m'avait frappé. Je trouvais qu'elle avait un beau genre, on pourrait dire, un genre différent des autres, là, mais je n'avais pas parlé, je l'avais juste vu, mais je l'avais remarqué, comme on dit. Puis par la suite, elle, un bon moment donné, moi, je m'étais présenté comme président de l'école, puis là, j'avais organisé des activités, puis là, on avait parlé ensemble, puis là, elle était assise à côté de moi, puis là, elle avait fait un petit peu, tu sais, elle s'était rapprochée de moi, elle avait l'air à trouver que j'étais intéressant, puis dans ce temps-là, j'étais drôle aussi. J'essaye de l'être encore, là, mais elle trouvait que j'avais un bon humour, puis j'étais organisateur. Ça fait que, puis aussi, c'est que moi, j'étais sauveteur durant l'été, j'étais sauveteur à la piscine.
Okay.
Ça fait que là, ça, c'était une belle profession. Ça, c'était, tu sais, on était regardés, tu sais, les beaux gosses. Bon, moi, j'étais pas beau. Puis ça, même que... Une anecdote par rapport à ça, là, c'est que quand je suis venu au monde, c'était la mode dans ce temps-là que, comme il n'y avait pas grand-chose à faire, il n'y avait pas de télévision encore, c'est que les voisins venaient visiter les parents. Puis là, un bonnet, il y a une madame qui était venue, puis elle m'avait regardé dans le berceau, puis là, elle avait regardé ma mère, puis elle avait dit, « Pauvre madame! » Elle avait dit, « Il n'est pas bien beau, mais elle a dit, au moins, elle dit, il n'est pas infirme. » C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. J'ai toujours su que c'était pas très beau, puis que c'était pas là-dessus qu'il fallait que je compte pour faire ma vie, pour trouver des blondes, tout le kit. Fait que c'était plus soit par l'humour ou par des bons comportements là, que je pourrais pogner plus tard, comme on dit.
Fait que depuis tout ce temps, elle t'accompagne. On dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme.
Oui, c'est ça. Puis Daniel, c'est pas compliqué. Moi, j'ai toujours plein de projets. Mais avant de lancer ça publiquement, je lui en parle. Si elle me donne le OK, ça veut dire que c'est correct. Même si c'est fou, si elle me dit que c'est correct, j'y vais. Mais si elle me dit « T'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à ça? » Ah oh, non, bon. Là, on éteint ça, comme on dit. C'est mon premier filtre. C'est fondamental, sa présence là, dans tout ce que j'ai pu faire. Parce que chaque fois que je me suis lancé dans des affaires, elle a accepté, parce qu'il y avait des... Il y avait des conséquences. Là, quand je militais dans toutes sortes d'affaires, j'étais pas souvent chez nous. Là, des fois, je mettais de l'argent là-dedans au lieu de mettre de l'argent dans l'épicerie ou dans d'autres choses. Là, ça fait que là, ça avait des conséquences.
Ça créait des tensions?
Non, pas vraiment.
Pas vraiment. Parce que, vous étiez capable de vous discuter?
Oui. Puis de toute façon, tu sais, elle savait que moi, une partie de ma vie pourrait se réaliser à ces conditions-là. T'sais, si j'avais pas pu militer, si ma blonde avait dit « Ah non, militantiste, non, trop compliqué, ça, t'es jamais chez nous, etc. » Ça aurait pas fait. Ouais. Non, on serait plus ensemble.
Ben oui, c'est ça.
C'est ça, tu sais. Puis finalement, pour elle, ça faisait son affaire parce qu'elle s'impliquait dans d'autres choses aussi. Ça fait que chacun, on avait une vie de couple, mais on avait une vie personnelle différente.
Ouais.
Tu sais, elle s'impliquait avec la troupe de théâtre, elle faisait des costumes, elle faisait, tu sais, des choses plus créatives au niveau des arts. Puis elle avait étudié en art, là. Ça fait que là, puis moi, ben, c'était plus politique, là, puis c'était plus environnemental. Ça fait que c'était bien correct, ça.
On va y revenir à ton implication, mais avant, je veux parler de ta famille parce que vous avez eu 3 enfants, c'est ça?
Oui.
Il était comment, Denis Trottier, le père de famille?
Bien, je dirais d'abord que ça m'a fait du bien d'être père de famille parce que, tu sais, ça calme un peu, là. Puis oui. J'avais tendance à avoir pas mal de jus, comme on dit, là. Puis si j'avais pas eu d'enfants assez jeunes, puis moi, j'ai eu le premier, j'étais très jeune, j'avais 20, en tout cas pour l'époque, j'avais 22 ans, Daniel avait 20 ans, tu sais. Puis à cette époque-là, on était les seuls qui avaient des enfants. Tous nos amis, il n'y a personne qui avait des enfants. Puis nous autres, on amenait notre enfant dans les parties. On allait au ciné-club, on l'amenait avec nous autres. Ça fait que, tu sais, c'était comme... Il y avait un trio, là, puis c'était comme ça que ça marchait. Puis on allait partout un peu avec lui. Mais je me rappelle que c'était pas la mode dans ce temps-là. Ça avait commencé à avoir des familles beaucoup moins grandes, puis beaucoup plus tard. Puis je me rappelle que quand ma blonde avait dit à certains amis qu'elle était enceinte, là, il y en avait plusieurs qui avaient dit « pas encore ». C'était le deuxième, puis là, c'était un peu comme si c'était la catastrophe, là. Bon, ça fait que là, moi, je trouvais que d'avoir juste un enfant, c'était pas suffisant. J'ai été chanceux, j'ai eu 2 gars et 1 fille, ça fait que c'est quelque chose d'intéressant. Puis ce qu'on a essayé de faire, c'est de leur donner la meilleure éducation possible, mais en leur laissant aussi le choix, en les laissant assumer aussi ce qu'ils voulaient faire. Puis,
comme un peu t'avais été élevé.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Dans le fond, on a transmis en partie ce qu'on avait été, là, puis avec... Des bonnes choses des fois, peut-être des erreurs d'autres fois aussi, là, parce que, tu sais, il n'y a pas de manuel pour devenir comment être parent, là, tu sais.
Non, non.
T'sais,
on fait bien ce qu'on peut, hein?
Tu sais, puis après ça aussi, c'est qu'il y a des enfants qui sont différents de l'un de l'autre. Une recette va marcher avec un, puis ça ne marche pas pantoute avec l'autre. Même père, même mère, même environnement, puis ça ne marche pas pantoute. Ça fait, qu'est-ce que tu fais avec ça, là? Tu sais, c'est que là, ça devient déstabilisant. Mais en même temps, c'est que là, en plus que de tranquilliser, quand les enfants sont un peu plus vieux, ça te permet de rester jeune parce que là, tu es obligé d'être au courant de ce qu'ils font puis de leurs intérêts. Ça fait qu'on socialise nos enfants, mais nos enfants nous re-socialisent aussi. Là.
Absolument.
Fait que, d'après moi, ça empêche de vieillir trop vite d'avoir des enfants. Parce que sans ça, si tu n'as pas d'enfants, d'après moi, tu viens arriver plus rapidement.
Ouais. Es-tu grand-parent?
Oui.
Oui?
2 petites filles. Là,
c'est Francis?
Plat. Francis, ouais,
wow.
C'est ça.
Je ne savais pas. Puis, comment ça a été, ça, le Denis grand-parent?
Ah, ben, niaiseux, on pourrait dire. Là, t'sais, ça, t'sais, moi, je joue à 4 pattes, puis je fais toutes sortes de niaiseries. Là, je joue des tours, puis faire des trucs de magie. Puis, entre autres, mettons, comme une affaire que j'avais faite, là, il y avait une table qui était lourde chez mon fils, là, puis là, je prenais mon petit doigt, puis là, je le levais avec juste mon petit doigt. Puis là, je disais à ma petite fille, essaye de le lever. Puis elle essayait, elle n'était pas capable. Mais moi, je poussais avec mon genou. Puis là, quand elle a vu que j'avais mon genou, elle souhaitait. Tu sais, grand-papa, il fait des blagues, là. Mais tu sais, c'est que là, puis ils sont contents. Ils sont venus l'année passée, 1 semaine. C'était la première fois. Puis ils ont super aimé ça. On avait des activités, là, 10 activités par jour ou à peu près, là, ça fait que là... Puis on était dans mon laboratoire, là, ça fait que là, il y avait toutes sortes d'affaires qui étaient faites, la gymnastique, des films, tout encore, un peu tout, là, c'était... Puis ils vont revenir cet été, là. On est proche d'eux autres, puis on se parle souvent, mais là, c'est plate, parce qu'avec le confinement, là, on peut pas
le faire comme on voudrait.
C'est ça.
Bon. Fait que là, on va revenir, là, Denis, toi, tu fais ton école. Qu'est-ce qui t'amène à partir est-ce que l'idée, mettons, le Denis militant, il existait? C'est quoi le déclic, en fait, du Denis qui va s'investir dans la société puis qui va tout mettre son énergie à changer le monde?
Ben, probablement en voyant des affaires qui ne marchaient pas, qui n'avaient pas de bon sens, mettons, soit de la pollution. Tu sais, j'avais vu, mettons, là, des gros tuyaux qui étaient à la sortie de Domtar, puis qu'il y a un gros tuyau en stainless de 5 pieds de diamètre, puis ça sortait plein de pâtes, puis toutes sortes d'affaires, puis ça puait. Tu sais, puis là, je me disais, c'est pas de bon sens, mais au lieu de faire comme bien du monde, là, sacré, puis de rien faire, ben, je me suis dit, on va faire quelque chose. Tu sais. Puis nous autres, mon père a toujours été très terre-à-terre. Là, tu sais. Pour lui, il y a un problème. Ben, si tu connais bien le problème, tu vas voir la solution. Lui, il disait la solution est dans le problème. Mm. Ça fait que là, tu sais, nous autres... Puis lui, c'était un gars actif. Là, tu sais. C'est que là, il agissait, comme on dit. Là. Ça fait que là, ben, moi, j'ai compris que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Puis quand j'ai vu à l'école Jean Delbeau que, tu sais, il y avait des affaires qui ne marchaient pas à mon goût parce que le directeur était... un gars pas terrible, en tout cas, je te dirais, antidémocratique, puis je pourrais raconter des affaires qui se racontent quasiment pas, là, mais un gars dangereux.
D'une autre époque.
D'une autre époque, pour pas dire d'autre chose. Puis là, ben moi, j'ai eu l'occasion de me présenter comme président de l'école puis de lui tenir tête. Puis ça, j'étais très heureux de ça. Que même si j'avais, mettons, 16-17 ans, j'étais capable de lui tenir tête, puis j'avais pas peur. Parce que chez nous, on a été élevés pas peureux. Ouais. Ça, c'est un élément peut-être important. Mon père, il avait peur de rien. Fait que nous autres, tu sais, on n'a pas été élevés à avoir peur de la noirceur, peur de ça. Puis même à ça, tu sais, quand j'étais jeune, je me pratiquais, mettons, à pas avoir peur. Nous autres, on avait une grande cave en bas de chez nous, là, puis il y avait toutes sortes de petites dédales, labyrinthe, là. Je descendais en bas quand j'étais jeune, puis là, j'allais le plus loin possible dans la noirceur. Ça, c'était quand je devais avoir 7-8 ans, là, pour vaincre ma peur. Ah, wow. Ça fait que là, bah, ça fait que c'est...
Fait que toi, t'as jamais eu peur, même comme... Ben, en tout cas, moi, je me reconnais beaucoup dans ce que tu racontes, là, parce qu'à un moment donné, ça reste que la personne en face de toi, même si elle est plus âgée ou elle a... Ben, un autre moi, titre, ça reste un être humain qui...
Oui, oui, puis en plus aussi, c'est que, tu sais, moi, je me suis lancé des affaires là, contre des grosses compagnies, là,
ouais.
Tu sais, puis je n'ai jamais pensé que je devais avoir peur d'eux autres, là, tu sais. Je me disais, ils n'ont rien qu'à se défendre, là, tu sais. Moi, puis en plus aussi, je faisais ça bénévolement, ça fait que moi, je n'avais pas rien à me reprocher. Puis c'était comme... Puis aussi, je dirais que... J'ai toujours aimé les gens là, qui n'étaient pas peureux, là, qui étaient capables d'affronter. Un gars comme Daniel Cohn-Bendit, je me rappelle, il y a des défauts, là, mais il était quand même... Il était capable d'affronter toutes sortes d'affaires. Ça me plaisait, tu sais. Puis, parce que je me disais que... Puis même à ça, je disais, plus il était gros, là, plus l'adversaire était gros, plus j'aimais ça. Parce que moi, me battre contre un petit, là, ça ne m'intéressait pas. Tu sais, je trouvais ça ignoble, ça. Il y en a qui font ça, il y en a qui sont bons. Ils claquent sur les petits. Bien, moi, quand il était gros, là... Puis qui faisait mal leurs affaires, ça me faisait plaisir de les remettre dans le droit chemin, comme on dit.
Puis y a-tu déjà, dans tous tes combats, des gens qui ont essayé de te faire peur? Tu sais, des grosses compagnies qui ont dit, ouais, attends, lui, on va l'intimider, lui, ouais, on va le baïonner.
Oui. Tu sais, faire sentir des affaires, puis le kit, mais ça me dérangeait pas, là. Ouais. Puis même, je me rappelle, entre autres, il y avait un gars qui m'avait appelé, qui m'avait dit, je vais te tirer. Il m'avait appelé au téléphone, il m'a tiré. Il avait dit, c'est quoi ton nom? Il avait dit, je te le dis pas. Ben, il a dit, t'es trop pissou pour dire ton nom, tu vas être trop pissou pour me tuer. Ça fait que tu me rappelleras quand tu seras prêt à me dire ton nom. Ça fait que là, tu sais, j'ai toujours été un peu comme ça. Puis peut-être un peu désinvolte, mais je savais que, tu sais, quand t'as peur, là, tu peux plus rien faire. T'es plus capable de réagir. Puis même, j'écoutais hier une émission sur le feu à l'église Notre-Dame de Paris, là.
Oui.
Puis quand à la fin, ils ont décidé qu'ils rentraient en dedans pour aller arroser, le chef des pompiers, il a dit à ses pompiers, est-ce que vous croyez qu'on est capable de faire ça? Puis ils ont dit oui. Puis là, c'est que le chef des pompiers, après, il disait que si je leur avais pas demandé, si je leur avais donné l'ordre, il aurait arrivé quelque chose parce qu'ils n'étaient pas en confiance.
Ouais.
Il faut que tu sois en confiance pour être capable de réaliser quelque chose. Puis moi, j'étais en confiance. Puis moi, souvent, je rencontrais du monde qui me disait « Ça donnera rien. Tu vois, tu t'attaqueras aux grosses compagnies. Tu peux pas gagner. Hydro-Québec. Ils vont tous décider. » Ben moi, là, je savais qu'en tenant mon bout, là, je pourrais faire quelque chose. Pas tout seul, bien entendu, parce que si tu mobilises pas plein de monde, tout seul, tu feras jamais rien. Puis ça, je savais que c'était en rassemblant du monde, puis en donnant beaucoup de temps aussi que tu pouvais faire quelque chose.
Ouais.
Parce que, tu sais, des fois, il y a du monde là, que je leur disais... ils me disaient, c'est quoi ton truc là, pour réaliser quelque chose? Ben, ils disaient, c'est le nombre d'heures par semaine. Dis-moi combien tu mets d'heures par semaine dans quelque chose, puis je vais te dire les chances que tu as de réussir. T'sais, c'est pas compliqué. Là,
ben, la loi de l'effort. Là.
Ben, c'est ça. Ouais. Puis je me rappelle, entre autres, là, que dans un. C'était un gars, c'était une petite compagnie, mais c'était sur les mini-centrales, puis il voulait faire des barrages à Delbeau, puis il voulait faire la passe avec ça. Puis moi, j'avais décidé que ça se passerait pas comme ça. Puis chaque fois qu'il faisait quelque chose, moi, j'intervenais, puis je disais, t'as pas raison, c'est pas vrai ça, puis tu le quittes. Puis là, un bon moment, il m'avait rencontré, puis il m'avait dit, tu dors-tu la nuit, toi? Elle dit pas beaucoup. Elle dit, j'aime pas ça perdre mon temps. Puis le lendemain ou le surlendemain, il avait abandonné le projet. Il avait vu que, tu sais, que j'étais tellement persévérant que, tu sais, qu'il ne réussirait pas à ses fins, il a arrêté. Puis ça, la persévérance, ça, c'est mon père qui nous a enseigné ça. C'est mon père, lui, c'était le plus persévérant. Lâcher prise, lui, ça n'existait pas. Pas capable, il est mort. C'est ça qu'il nous disait. Impossible, ça n'existait pas dans son dictionnaire. Fait que nous autres, la persévérance, là, c'était quelque chose de très important. Puis ça, je me suis aperçu que quand tu es persévérant, tu finis par gagner. En autant, bien entendu, que tu as une bonne cause, comme on dit. Là.
Tu es prêt à mettre du temps.
Ah oui, tu es prêt à mettre du temps. Là. Puis ça m'a servi, ça. Parce que, tu sais, en gagnant des affaires, ça m'a même arrivé dans certains combats que des gens disent bon, on est aussi bien d'accepter. De toute façon, on n'aura pas le gros bout du bâton. Il va nous toffer jusqu'à la fin. T'es aussi bien de régler ça tout de suite. Tu sais, c'est que les. T'sais, mais ça, c'est parce que moi, je savais en dedans de moi que c'était une bonne cause. Là. Ouais. Tu sais, c'est que là, c'était pas pour faire le mal, tu sais, mais si je décidais que, veux dire, que telle affaire, ça devait être protégé, ou tel tuyau, ça devait arrêter, parce que ça avait aucune allure, là, tu sais. Moi, là, avant de m'embarquer dans une cause, il fallait que ça me pogne aux tripes en dedans. Quand, à un bon moment donné, là, je sentais là, que je n'étais pas capable de vivre avec cette histoire-là sans faire quelque chose, là, je sentais que ça allait durer. Là. Ouais. C'était pas une petite crisette, là. C'était pas un petit mal de ventre de 5 minutes. Là. C'était quelque chose de profond. Là. Bien, quand tu sens cette profondeur-là, puis que tu es capable, puis c'est sûr aussi que moi, j'ai pas de mérite. Je suis venu au monde capable de faire ce genre d'affaires-là. Mm-hmm. Puis moi, j'ai toujours pensé que si tu veux, mettons, avoir une certaine équité, bien, c'est que ceux qui ont plus reçu doivent donner plus que ceux qui ont moins reçu. Il y en a qui sont venus au monde beaux, grands, forts, intelligents, musiciens, ils ont tout eu gratuitement. Eux autres, il faut qu'ils donnent plus que ceux qui sont venus au monde pas beaux, pas forts, pas intelligents, pas musiciens. Ouais. Ben moi, j'ai pas tout reçu, là, tu sais. Ouais. Je disais, la beauté, ça a été oublié, mais c'était pas grave. Bon, mais, tu sais, j'ai reçu la capacité de pouvoir mobiliser des gens, la capacité de pouvoir m'impliquer, la capacité de pas avoir peur. J'ai reçu ça gratuitement, là. Moi, j'ai pas rien fait pour ça, là, tu sais.
Puis y a-tu déjà, tu sais, moi, je repense à Denis, mettons, des années 70, qui décide que, lui, l'environnement, c'est important. On devait te pointer du doigt puis rire de toi ou
ah oui,
dire
oui,
ça n'a pas de sens quand aujourd'hui, tout le monde te donne raison. Là.
Ah oui, dans ce temps-là, ils nous appelaient les oiseologues. Les oiseologues, ils nous ridiculisaient. Là, ils disaient, ah, c'est eux autres, ils veulent défendre des petits pépites. Ouais. Lui, il aime mieux les petits pépites que les usines. Là, puis, mais ça, oui, je me suis fait dire toutes sortes d'affaires.
Ça t'a-tu déjà ébranlé des fois?
Non, parce que tu sais, moi, je sentais profondément que je croyais avoir raison.
Tu étais investi par ta cause.
Ben non, mais tu sais, c'est que là, tu sais, quelqu'un, mettons, qui fait quelque chose d'inacceptable puis qui essaye de me convaincre que c'est correct, tu sais, c'est que là, t'envoies les déchets directs dans la rivière, t'envoies de l'acide dans la rivière. Là, tu me dis, ben c'est normal. Non, non, c'est pas normal. Non, c'est pas acceptable. Les poissons morts, là, c'est pas normal, ça, là. Tu sais, puis c'est la même affaire dans d'autres choses, là. Tu sais, quand il y avait le flottage du bois, là, puis que, bon, ben, moi, je disais, ça, c'était bon une certaine époque.
On est rendu ailleurs.
Tu sais, c'est que là, comme aujourd'hui, là, tu sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a des affaires qu'on n'accepte plus. Ben, c'est comme ça qu'il faut voir ça, là.
Ton premier grand combat, si je me trompe pas, c'est la Chouap-Mouchouin.
Ouais.
Contre Hydro-Québec.
Ouais, c'est ça. 1980, là, il y avait... Ouais.
Il voulait faire un barrage sur la Chouap-Mouchouin.
C'est parce que, d'abord, au point de départ, ça a mal été parti, là. C'est qu'Hydro-Québec, ils sont venus nous annoncer qu'il allait avoir... Ben, moi, je l'avais su par en dessous de la table par quelqu'un qui travaillait dans un ministère qui préparait un projet, puis le kit. Là, okay. il annonce un bon moment donné que l'Hydro-Québec veut faire des barrages sur la Chouap-Mouchouin. Et là, on va avoir le choix, par exemple. Soit deux barrages... ou soit trois barrages. Ça, c'est le choix qu'on a, là.
Bon choix.
Fait que là, première rencontre qu'on a avec les dirigeants d'Hydro-Québec, là, je dis au monsieur, tu sais, puis il faut dire aussi que, T'sais, avant, là, moi, j'étais connu dans l'environnement. Là, mettons, j'avais été sur le comité d'environnement de le Beau-Mistassini. On avait planté des fleurs, on avait ramassé toutes sortes d'affaires, le recyclage. Mais ça, c'était des petites actions, des dénonciations. Mais le premier vrai combat, là, c'était la femme, comme je disais. Puis là, j'avais dit au gars d'Hydro-Québec, j'avais dit, non, non, il va y avoir une troisième option. Là. Il n'y a pas de barrage pantoute. Là. Sinon, on n'embarquera pas là-dedans. C'est pas vrai qu'en partant...
Vous nous imposez qu'il y ait...
Oui, oui. Là, est-ce qu'on est dans une démocratie ou pas, là, tu sais? Puis là, un bon moment donné, un des boss d'Hydro-Québec nous avait dit, vous savez, M. Trottier, c'est que là, l'Hydro-Québec, là, c'est comme une grosse coopérative. Là, ça appartient à tout le monde, là. Puis bon, ben, j'ai dit, c'est très bien. Je voudrais savoir c'est quand est-ce la prochaine Assemblée générale pour que je puisse mettre à l'ordre du jour la décision que vous voulez nous imposer, là, tu sais, de ne pas avoir de choix. Et finalement, c'est que ça s'est imposé parce qu'on a réussi à mobiliser un paquet de monde. Tu sais, mais c'était un combat. Là, puis ce combat-là, c'était en 80. Il était repris en 90. Mm-hmm. Puis il était repris une couple de fois. Là.
Tu as même fait ton mémoire de maîtrise là-dessus.
Oui, j'ai fait mon mémoire de maîtrise là-dessus.
Mais
ouais,
c'est peut-être une des rares personnes qui l'a lu, mais je l'ai lu.
Oui, il y a mes trois directeurs de thèse. Là. Puis ça, c'était une affaire que j'ai beaucoup appréciée. Mon directeur de thèse m'avait dit, Denis, tu peux faire soit une recherche documentaire, là, ou une recherche action. Ouais. Je ne savais même pas que ça existait. Fait que là, je lui raconte ça, que moi, je veux me lancer là-dedans, puis le kit. Bien, ça, c'est l'exemple type d'une recherche action. Moi, toutes les affaires les théories, là, tu sais, c'est intéressant à connaître, mais je ne suis pas un théoricien. Moi, je suis un praticien.
Et un gars de terrain.
Un gars de terrain, oui, un gars d'action, tu sais, puis ça fait que là, puis j'avais eu des très bons commentaires parce que c'était la première fois que quelqu'un racontait de l'intérieur une lutte là, environnementale. Tu sais, ça a été, entre autres, c'est Michel Jourdan qui était le premier écologiste au Québec, avait été un de mes directeurs de thèse, puis il avait bien aimé parce que on pouvait voir comment ça se passait un combat dans le réel. Là. C'est quoi les aventures, les obstacles, etc., etc. Puis ça a duré 2 ans et demi, cette histoire-là. Mm-hmm. Là, 2 ans et demi à temps plein pour réussir à bloquer ce projet-là, parce que c'était fondamentalement, d'abord, c'était la route historique pour monter à la baie James, mm-hmm, pour les Autochtones. C'était aussi la rivière la plus importante pour la Wananish. Puis aussi, en plus, c'est que dans ce temps-là, Hydro-Québec voulait faire des barrages à peu près toutes les rivières. Puis nous autres, on avait démontré que ça n'avait aucun sens qu'on puisse, au Québec, manquer de courant. Parce que là, on était rendu qu'on faisait des projections que le Québec aurait besoin de plus d'électricité que 1 milliard de Chinois.
Ouais, ouais.
Fait que là, ça marchait pas, là, tu sais. Puis quelques mois après qu'ils ont eu abandonné le projet de la Fort Mouchouane, qu'on a eu tout arrêté notre histoire, c'est que Hydro-Québec s'est rendu compte qu'il était complètement dans les patates, puis qu'au lieu de manquer d'énergie, on en avait trop. On avait trop. T'sais, mais il avait fait des calculs exponentiels, là, ça fait que là, t'sais, ça n'arrêtait pas, ouais, de monter.
Pour les avantagés, probablement.
C'est ça.
Ils sont pas idiots, non plus.
C'est ça. Non.
Puis, donc, c'est après ça que tu deviens enseignant au cégep?
J'ai commencé à l'école secondaire. J'ai enseigné un soir en géographie au secondaire.
Ça veut pas ça.
78-79, là, dans ces années-là. Puis après ça, à partir des années 80, là, j'étais plus au niveau... j'ai travaillé aussi, moi, pour Levons-nous nous-mêmes, qui était une organisme sans but lucratif qui mettait en place des coopératives d'habitation. Moi, j'étais agent de développement pour démarrer des coopératives. Puis à ce moment, j'étais 4 ans là-dedans. C'était une belle expérience. J'ai bien aimé ça. Par la suite, là, je suis devenu chargé de cours à l'Université du Québec à Chicoutimi, puis professeur à temps partiel au cégep de Saint-Félicien, puis petit à petit...
Qu'est-ce que ça t'a amené? Parce que là, je pourrais parler pour les étudiants. Je t'ai eu, je connais plein de gens qui t'ont eu comme enseignant. T'en as marqué plusieurs. Je pense que t'étais bien apprécié. En tout cas, moi, ça m'a amené ma vocation de maintenant. Mais toi, c'était quoi ton rapport avec les étudiants? C'était quoi ton rôle? Tu voulais les allumer? Tu voulais le faire réaliser qu'ils pouvaient changer le monde?
Bien, d'abord, moi, j'enseignais en sciences politiques puis en sociologie. Là. Puis je posais toujours la même question au début aux étudiants. Là, qu'est-ce que vous pensez de la politique? Là, je commençais avec ça. Là.
Je suis d'accord avec ça.
Bon, puis là, tu sais, la plupart me disaient c'est de la merde, ça donne rien, c'est tous des voleurs, des affaires qu'ils avaient entendues chez eux, ben, probablement. Oui. Là, puis pour moi, la politique, c'était le métier le plus noble, le plus important, le plus essentiel qui existait, parce que c'est le moyen par lequel on peut changer la société, on peut l'améliorer, puis qu'on donne le pouvoir aux citoyens de pouvoir participer à ça. C'est pas une personne qui décide, là, c'est l'ensemble du monde peut décider. Je le sais que c'est pas toujours démocratique, puis je le sais que c'était amélioré, puis tout le kit, mais ça reste quand même fondamentalement, je veux dire là,
une bonne idée,
là, tu sais. Puis la démocratie, en tout cas, à ma connaissance, c'est meilleur que la dictature, en tout cas. Là, bien, j'espère bien qu'on va rester là-dedans.
On va en parler aux Nord-Coréens.
Oui, c'est ça, mais en tout cas. Ouais, bon. Mais, puis aussi, c'est que, tu sais, moi, je me disais, le plus important pour moi, c'est que je réussisse à le faire aimer la politique. C'était ça mon objectif. Pas de passer nécessairement la matière pour l'équipe, le faire aimer, le rendre ça agréable.
Le faire réaliser qu'être citoyen, c'était important, ouais, que ça pouvait être agréable.
Oui. Puis aussi qu'il y avait un rôle à jouer là-dedans aussi. Là. Mm-hmm. Tu sais, parce que moi, je conçois pas une vie de citoyen sans implication. T'sais, pour moi, un citoyen, c'est pas quelqu'un qui va voter et qui paye juste ça. T'sais, ça, pour moi, c'est une personne. Bon. Ouais. Un citoyen, c'est quelqu'un qui s'occupe de lui, de ses enfants, de sa famille, ses grands-parents, etc., mais qui s'occupe aussi de la communauté, qui s'implique dans la communauté. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans la culture, ça peut être dans n'importe quoi, mais qui donne une partie de sa vie pour l'ensemble.
C'est un actif.
Un actif. Parce que sans ça, c'est que si personne s'implique, comment ça va s'améliorer? Ça ne s'améliorera pas tout seul. Puis c'est pas vrai que vous êtes qu'un premier ministre, à la suite d'un discours, il va révolutionner toute la quête.
Non, puis le premier ministre ne peut pas avoir toutes les bonnes idées. Il faut
non
que ça
plus.
Vienne un peu.
Non plus. Puis, puis même si le premier ministre avait plein de bonnes idées, il faut garder notre propre pouvoir à nous autres pour être capable de dire de temps en temps, « Oups, c'est très bien dans l'ensemble, mais ça ne marche pas, là. » Vous restez allumé pareil. Puis ce que j'aimais aussi, quand j'étais enseignant, c'était de répondre aux questions. Ça, moi, répondre aux questions, ça, c'était... C'est la partie la plus... Celle que j'aimais le plus. Puis ça, puis on discutait... Puis aussi, une autre affaire, c'est que un des moyens que j'ai trouvé de faire apprécier la politique, c'était de poser des petites questions d'actualité. Je me demandais, qu'est-ce qui s'est passé d'important hier dans les nouvelles? Parce que si les étudiants, ce que la plupart faisaient pas, ils n'écoutaient pas les nouvelles... Comment comprendre le langage politique? Comment expliquer des affaires? Quand tu penses que le premier ministre des États-Unis, c'est le premier ministre du Canada, puis tu ne démêles pas ça,
ouais.
Fait que là, ça, c'est pour ça qu'à tous les matins, je discutais de ce qui s'était passé la veille et j'obligeais les étudiants à lire le journal ou à écouter les nouvelles Radio-Canada, etc. Puis il y en a qui m'ont dit plus tard, « Denis, sur le coup, on n'aimait pas ça, mais aujourd'hui, on continue d'écouter les nouvelles parce qu'on était obligé dans ton cours. »
Parce qu'à un moment donné, on prend ce réflexe-là. Puis quelque chose, je me souviens aussi de ton enseignement, c'est que, contrairement à plein de profs, tu ne faisais pas juste étendre ta connaissance, tu étais à l'écoute aussi des réflexions. Ouais. Parce qu'ils sont pas parfaits, les étudiants, ouais, mais ils réfléchissent, ouais, avec tous les défauts, mais ouais, tu étais capable un peu de répondre à ces questions-là, je pense.
Ben, parce qu'au point de départ, moi, je voulais pas te donner la vérité. Pour moi, je n'ai jamais pensé que j'avais la vérité. J'avais des options sur la vérité, on pourrait dire. Puis, entre autres, prenons un exemple bien terre-à-terre qui m'était souvent demandé, là, « C'est-tu bon, l'indépendance? » Bon, ben moi, je suis indépendantiste. Vous aurez pu dire, « C'est sûr que c'est bon. » Vous dire, là, tout est bon là-dedans, là, c'est comme du bonbon. Mais ce que je leur répondais, c'est que l'indépendance, c'est pas ça qui va faire que ça va être bon ou pas bon. L'indépendance, ça, c'est la décision qu'on prenne, nos décisions par nous autres-mêmes. Ça va être bon si après l'indépendance, on prend des bonnes décisions, puis ça va être mauvais si on prend des mauvaises décisions après l'indépendance. Ça sera pas la faute de l'indépendance, ça va être la faute de nos décisions qu'on va avoir prises. Ça fait que là, tu sais, puis c'est pour ça qu'à ce moment-là, tu sais, j'étais capable de rejoindre des gens qui étaient peut-être pas en faveur de l'indépendance, mais que ça les faisait réfléchir en disant « Ouais, tu sais, c'est que c'est plus compliqué un peu que ça n'a l'air. »
T'aimes ça avoir peur? T'aimes ça le cinéma? T'as écouté les deux premières saisons de Vidéo Terreur où tu nous as pognés en podcast sur toute bonne plateforme de podcast? Eh bien, l'attente est terminée. Vidéo Terreur saison 3, ça s'en vient!
La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là. Puis elle est disponible sur le web à cette heure. Deux clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes. Puis deux, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV pour parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de vedettes de chenoute de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi.
Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. C'est Jean-Pierre Degas qui m'a donné ma préférée de vélo. Merci!
T'as aussi travaillé beaucoup. Je sais que la ville de Dolbeau-Missassini te doit beaucoup parce qu'avec la société de gestion environnementale que t'as créée, ben, tu sais, si t'étais pas là, il y aurait pas de... Ben, il y aurait peut-être, mais tu sais, comme le parc La Pointe des Pères, le
parc Centre-Ville.
Le parc Centre-Ville. Bon, il y a beaucoup d'actions qui t'ont mené pour justement qu'on ait des espaces verts, pour travailler pour l'environnement, puis ça continue d'exister. Ça, ça doit être un leg dont t'es fier.
Oui, oui, puis tu sais, je me dis, si je m'en étais pas mêlé, ça peut arriver que ça existe pas, puis... mais c'est parce que dans ma tête, là, c'est que, tu sais, le bien commun, là, ça a toujours eu un espace important, là, tu sais, parce que je comprends très bien que, mettons, la propriété privée, ça a des qualités, là, puis entre autres, dans l'histoire de la démocratie, puis entre autres, durant la Révolution française, ça a été débattu, est-ce qu'on devrait abolir la propriété privée? Ouais. Et finalement, on a décidé de ne pas l'abolir. Pourquoi? Parce que c'était un lieu dans lequel tu pouvais conserver ta liberté, puis que le roi pouvait plus venir t'enlever tes terrains comme ça se faisait avant ça. Fait que la propriété privée, ça va être la liberté. Mais quand il reste juste la propriété privée, puis que là, tout est privé, là, il n'y a plus de bien commun, là, ça peut pas. Il faut trouver un équilibre là-dedans.
Ouais, c'est ça.
Puis moi, je pense que, tu sais, les beaux espaces, là, ben, ils doivent être conservés pour l'ensemble de la population. Comme là, nous autres, c'était la Pointe des Pères. T'sais, c'est magnifique, les chutes, puis tu le quittes. T'sais, si je n'avais pas embarqué là-dedans, peut-être que ça aurait été vendu à quelques personnes, 2, 3, 4 personnes qui seraient mis des grosses maisons là-dessus puis qui auraient fait un domaine avec ça. Mais pour moi, ça n'avait pas d'allure que ça puisse se faire comme ça.
Non, mais
je pensais que, t'sais, il faut trouver, comme je disais tantôt, un équilibre entre ce qui est un service collectif, qu'on se paye collectivement, puis aussi qui peut augmenter notre sentiment de fierté. Tu sais, c'est que quand, mettons, le monde, ils ont de la visite, ils peuvent dire, y a-t-il quelque chose à voir à Dolbeau? Oui, on va aller dans le parc de la Pointe des Pères.
Bon. Écoute, moi, quand j'étais petit, ce grand champ-là, c'était comme un mystère. On n'avait pas le droit d'aller là. Il y avait quelque chose. Aujourd'hui, ça appartient à tout le monde. Il y a des gens qui marchent, qui courent, il y a des cours, il y a de l'interprétation historique. C'est fantastique, là. C'est comme réussite, là. Ben, je sais pas.
Ben, moi, je suis content de ça, tu sais. Puis, j'essaye. Tu sais, pour qu'une société fonctionne bien, il faut s'occuper de soi, mais il faut s'occuper aussi de notre bonheur collectif. Tu sais, c'est que là, j'aimais bien l'introduction de la première constitution française qui disait que le but de la société, c'est le bonheur commun. Ça, ce que ça veut dire, là, c'est qu'il faut qu'on fasse des choses qui fassent en sorte que l'ensemble de la population puisse en bénéficier. Actuellement, dans notre société, là, on voit de plus en plus que le bonheur commun est mis de côté pour le bonheur de quelques-uns.
Des individus.
Là, je voyais hier, justement, là, que là, il y a 500 nouveaux milliardaires de plus, là. Bon, cette année, là, tu sais, ça fait que là, présentement, là, c'est complètement fou parce qu'il y a de plus en plus de monde qui ont de plus en plus d'argent, mais que c'est une minorité, là, c'est que les rois d'autrefois, c'est des pauvres par rapport aux milliardaires qu'on a aujourd'hui. Là.
Ouais.
Quand on est rendu avec des gens qui, en l'espace de 10, 15 ans, 20 ans, deviennent multimilliardaires et qui possèdent plus que c'est un grand nombre de pays,
ouais.
Ça n'a plus de bon sens, là. Ouais. Ça n'a plus de bon sens. Puis que là, ce monde-là commence à privatiser des territoires pour eux, là. Pas pour l'ensemble de la population. Là. Tu sais, je comprendrais quelqu'un qui est devenu milliardaire et qui décide d'acheter un immense territoire pour en faire un bien commun. Ça, je pourrais trouver que, en tout cas, ça, au moins l'argent a servi à quelque chose de bon.
Mais c'est pas ça
qui se passe. Mais là, c'est pas ça qui se passe pendant tout. Puis d'après moi, le défi qu'on a dans l'avenir, c'est de remettre ça en question. Parce que là, c'est rendu que présentement, il y a tellement de gens qui ont tellement d'argent que c'est l'argent qui mène, c'est plus la politique.
Ben oui, même les gouvernements ne peuvent plus faire grand-chose face aux compagnies transnationales, ben, là, parce que c'est tout le temps la menace, on va s'en aller ailleurs.
Tu sais. Oui, mais là, c'est parce que quand c'est rendu que c'est l'entreprise privée qui fait les lois,
ben non, c'est ça.
On ne peut pas accepter ça. Là. Quand c'est l'entreprise privée qui décide si elle va payer de l'impôt ou pas, ça ne marche pas. Là. Il faut qu'on reprenne le pouvoir politique, le pouvoir de décision, parce que c'est à l'ensemble de la société de décider de l'avenir. Il faut que le but de la société, ce soit le bonheur commun, pas le bonheur de quelques-uns. Et là, présentement, ce qu'on voit, là, c'est qu'il y a un petit groupe, là, puis c'est complètement fou. Là, t'sais. À quoi ça sert d'avoir des plusieurs milliards? Je peux comprendre qu'avoir un peu d'argent, ça peut être plaisant, mais rendu à un certain niveau, c'est complètement improductif.
Ouais. Ben oui, parce que...
Puis aussi, c'est totalement inacceptable. Ah oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vaut, mettons, un milliard, alors que l'autre, lui, il en vaut 10 000, là, tu sais, pas de bon sens. Puis en plus aussi, ce qui me choque dans ça, là, c'est que souvent, ces gens-là qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont reçu des affaires gratuitement. Là. Ils sont venus au monde beau, grand, fort, intelligent. Ça, ils ont reçu ça gratuitement, là. Bien, si tu as reçu ça gratuitement, il faut que tu prennes ce que tu as reçu gratuitement et t'en fasses bénéficier l'ensemble de la société. Si tout ce que tu fais avec ce que tu as reçu gratuitement, là, que t'es intelligent, t'es beau, puis tu le quittes, que tu fais ça pour toi, à ce moment-là, tu ne joues pas ton rôle. Parce que, tu sais, on a un rôle comme individu d'améliorer son sort, mais on a un rôle comme citoyen. Tu sais, on a un double rôle. Le rôle d'individu, mettons, aider sa famille, tout le kit, améliorer son sort à soi, mais on a un rôle de citoyen aussi qui doit faire en sorte qu'on puisse bénéficier à l'ensemble de la collectivité. Là. Il faut avoir un équilibre là-dedans. Là.
Ben oui, puis toi, ce rôle-là, tu le prouves sérieux parce que tu as été conseiller municipal. On se rappellera de ton célèbre combat, qui n'était pas que ton combat, mais pour le toit sur le boulevard Wahlberg. Ensuite, tu as été maire, tu as été préfet. T'as été député. J'ai le goût qu'on parle de toute cette évolution politique-là. Là. Tu sais, quand la première fois, tu te dis, là, je mets le pied dans l'engrenage, j'y vais. Est-ce que tu le savais depuis longtemps que t'allais vouloir faire de la politique au-delà de...
Non. Ben, moi, j'ai toujours été très passionné par la politique. Ça a commencé en 1960. Je me rappelle d'avoir écouté les élections avec ma mère, là, puis on avait gagné nos élections tous les deux. Tu sais, bon, moi, en tout cas. Moi, j'ai commencé, à m'impliquer en politique assez tard. Même quand j'étais député, j'avais passé 50 ans. Là. Ça fait que, tu sais, on peut pas dire que j'étais... si j'avais été un opportuniste, j'aurais probablement rentré bien avant ça. Mais pour moi, c'était quand quelque chose me prenait à cœur, je fonçais. Que ce soit, puis pendant longtemps, ça a été de prendre, mettons, la direction de comité que j'ai formé, là, tu sais, le comité de protection de la foire Mouchouane, la société de gestion environnementale. Je décollais des affaires sans but lucratif, des organismes à vocation sociale, économique et environnementale. Mais la politique, quand j'ai commencé à m'impliquer là-dedans, c'est comme s'il ne restait plus d'autre choix que ça. Là. C'était pas ça que j'avais vu en premier.
C'était quoi le déclic?
Le déclic, c'est quand je voyais qu'à un bon moment donné, il restait plus rien que ça, là, de me présenter comme conseiller. Entre autres, tu parles, là, mettons, de l'histoire du mail là, à Delbeau. Là. Je me suis présenté comme conseiller pour empêcher que ça se fasse, pour que la démocratie soit respectée. Puis ça a été la même affaire, mettons, après ça, quand j'ai embarqué dans d'autres choses plus tard. Là, puis, c'est comme ça que ça s'est passé. Là.
Puis ça, ce combat-là, entre autres, sur le toit sur le boulevard Wahlberg, c'est un combat que tu as perdu. Parce qu'on sait aujourd'hui, il y a ça. Mais tu as sûrement appris des leçons de tout ça. Puis est-ce que ça a été dur pour toi de perdre un combat? Ou,
Oui, c'était dur. C'était dur parce que, d'abord, je n'avais gagné plusieurs, pas tout seul, là, mais en groupe. Là. On avait gagné le combat sur le flottage du bois, le champ de tir de l'Ascension. On avait gagné le combat aussi sur la Fort Mouchouane. Fait que, tu sais, moi, je faisais partie des winners, on pourrait dire. Là, que... Bon, puis ça, j'ai eu de la misère. Puis même, ça m'a rendu malade, toute cette histoire-là. Parce que je n'étais pas capable d'accepter la défaite, d'autant plus que ça s'est fait de manière antidémocratique. Là. Le maire de l'époque, là, M. Brassard, passait par-dessus les institutions, puis il n'a pas écouté personne, puis malgré le fait qu'il y avait une opposition terrible là-dessus, il s'est arrangé pour que ça se fasse. Là, mais ça, c'est complètement inacceptable, tout ça. Puis, comme je disais, ça m'a même rendu malade. Puis, par après ça, je me suis aperçu qu'il fallait que je m'implique beaucoup, mais que j'ai un certain détachement pour pas me rendre malade avec des problèmes collectifs.
Ouais,
là.
Pas que tu le prennes de manière personnelle. Ouais, toi, tu travailles ça. Pour le bien c'est commun, ça. Mais il faut c'est que ça. Tu fasses à un moment c'est donné, ça. Bien là, ça m'a... On a décidé collectivement qu'on mette un toit, bien, il faut que c'est je l'accepte.
Bien, c'est... puis aussi, c'est que, tu sais, je me sens pas responsable de ça si notre groupe a pas gagné, là, ouais. Tu sais, c'est que là... Tu sais, c'est que dans le fond, à partir du moment où tu penses avoir tout fait, là... Ouais. Sentiment de culpabilité, là, puis bon, mais...
Bien bon, okay. Écoute, t'as passé...
On apprend avec le temps.
Mais oui, qu'est-ce que t'as appris le plus de cette défaite-là?
Qu'il fallait justement être capable d'avoir un petit peu de recul par rapport aux causes dans lesquelles on s'impliquait, parce que même si on a raison, ça peut arriver pour toutes sortes d'événements qu'on ne puisse pas gagner. Là. Si les gens trichent de l'autre côté, ben là, si les gens ne respectent pas la démocratie puis que malheureusement nos lois sont ainsi faites que c'est possible... Ben là, c'est pas toi qui as perdu, c'est la démocratie qui a perdu. Il ne faut pas le prendre personnel. Ça, j'ai appris à me détacher de ça. Puis ça prend quasiment toute une vie pour apprendre ça.
Puis aujourd'hui, quand tu regardes ce qu'on est en train de créer sur Boulevard Wildbury avec l'espace, on va enlever les terre-pleins, tout ça, ça te fait sourire? Ça te rend
je suis bien content.
T'es content? T'as l'impression qu'on a compris le message?
Puis entre autres, tu sais, comme là, je regardais, il y a quelques semaines, on a enlevé une partie du ciment sur le boulevard. Là. Bon, tu sais, quelque chose qui était très laid, puis tu le quittes. En tout cas, j'ai l'impression que le bon sens reprend vie. Ça a pris du temps, mais en tout cas, comme on dit, des fois, il faut être patient et persévérant. Mm.
Puis là, après ça, t'es devenu maire, ici même à Péribonka. Mm-hmm. Là, c'est un switch. Là, t'étais conseiller municipal à Dolbeau. Tu décides de t'en venir ici. Qu'est-ce qui provoque ce changement-là?
Bien, d'abord, moi, j'avais un chalet à Péribonka. Pour pouvoir se présenter, il fallait avoir une propriété. Mm-hmm. Là, puis aussi, parce que d'abord, Péribonka, c'est mon arrière-grand-père qui avait fondé Péribonka. Puis je pensais que je pouvais apporter des éléments intéressants à Péribonka. Puis... T'sais, mon grand-père a été le premier maire aussi. Mon arrière-grand-père a été le premier maire. Ça fait qu'il y avait un peu tout
Édouard Niquette, on parle
d'Édouard Niquette. C'est ça. Ça fait que là, ben, j'ai pensé que je pouvais moi aussi apporter quelque chose, là, 100 ans plus tard. Je trouvais que c'était une belle implication.
Puis t'as-tu trouvé ça difficile dans le sens où tu passais de la grande ville, qui avait un peu le plus gros poids dans la MRC, à une petite municipalité? C'était difficile, ça?
Non, parce que là, d'abord, moi, j'aime les... Tu sais, j'aime pas les grandes villes au point de départ. Puis je veux pas dire que Dolbeau, c'est une grande ville, là.
Non, mais on comprend.
Tu sais, moi, j'aime pas les mégalopoles, etc. Moi, quand je regarde ça, je me dis, ça se peut-tu qu'il y a du monde qui vive là-dedans, là? Tu sais, moi, je reste dans le village content de ça. Il y a de l'espace, il y a de la liberté, tu sais. Bon, puis moi, c'était un objet de fierté, le fait que mon arrière-grand-père avait été le premier maire. Ça fait que je voyais pas de problème avec ça, tu sais. Puis aussi, c'est que je savais que ça pouvait... Même si t'es maire d'une petite communauté, quand t'arrives à la MRC, t'as autant de poids que...
D'ailleurs, t'as été préfet à ce moment-là.
J'ai été préfet par la suite. Ça m'a amené à devenir préfet, là. Ça fait que...
C'est quoi quand tu regardes, tu repenses à cette époque-là, là, c'est quoi les belles choses que t'as réalisées ou dont t'es fier à l'époque où t'étais maire de Péribonka ou préfet de la MRC?
Bien, en tout cas, il y avait eu la question du camping, mais aussi, c'est que... J'avais dit aux citoyens qu'allais faire une période de questions avant l'Assemblée plutôt qu'après. J'étais probablement le premier maire qui a fait ça. Parce que là, tu sais, les périodes de questions, une fois que c'est décidé, là, ça donne quoi, ça? Ça fait que moi, j'avais initié l'idée que vous avez des questions sur ce qui se passe à l'heure du jour aujourd'hui, posez-les avant l'Assemblée, comme ça, ben là, peut-être qu'on changera des affaires, peut-être qu'on retardera la décision. Mmh. Mais là, une fois que tu as décidé de faire une période de questions... C'est un peu fou. C'est une petite affaire, mais j'étais fier de ça, d'avoir initié ça. Puis il y en a quelques-uns.
Le sentiment que c'était plus démocratique.
Oui, c'est ça. Ça m'a toujours. J'ai toujours été très préoccupé par cette question-là. T'sais, j'ai étudié en sciences politiques, puis j'ai passé ma vie dans ce monde-là.
Oui, puis à militer pour le régionalisme, la décentralisation, etc. Ouais. Mais il reste qu'à un moment donné, tu dis je tente ma chance, je m'en vais. Jouer le jeu avec les grands, là. Je veux pas faire une échelle de valeur, mais de dire je m'en vais au Parti québécois pour devenir député. Mmh. Là, on change d'échelle. Là. Mmh. Donc, tu as été élu. Parle-moi de cette expérience-là, mais parle-moi aussi du fait du petit gars qui est régionaliste et qui veut la décentralisation, puis qui essaye à un moment donné dans la, au niveau du Québec de changer les choses, mais à petite échelle, ça devait être complexe?
Bien, d'abord, il faut dire que c'était pas prévu. Là, que, j'ai pas, quand j'étais, même si j'ai enseigné en sciences politiques, je n'ai pas pensé faire une carrière de politicien. Ouais. Là, pour moi, c'était pas ça qui était essentiel. C'est venu sur des coups de cœur. Puis, entre autres, la question du Parti québécois, c'est venu sur une émission de Télé-Québec à l'époque, là, une émission avec Marie-France Bazot, dont je ne me souviens plus du titre, mais que là, le titre de l'émission, c'était « Faut-il fermer les régions? » Et là, on posait cette question-là comme si ça avait été « Faut-il fermer les lumières le soir avant de se coucher? » Là, tu sais, c'est comme...
De manière banale, comme banale. Si ça impactait personne.
Oui, tu sais, c'est que là, dans le fond, peut-être qu'on devrait fermer les régions. Ça coûterait peut-être moins cher, puis le kit. Puis là, j'étais venu en beau fusil parce que les gens qui avaient été, ils avaient essayé de défendre leur point de vue, mais ils n'étaient pas assez bien préparés. Puis là, j'avais écrit une lettre là, assez raide là, en disant que s'il n'y avait pas les régions, il n'y aurait pas de bois pour la construction, il n'y aurait pas de courant dans les maisons, il n'y aurait pas toutes sortes d'affaires. À quelle place que vous pensez que ça se fait, tous ces prix, toutes ces affaires-là? Là, puis j'avais même pas eu de réponse. Fait que là, j'ai comme compris que ça prenait du monde pour défendre les régions parce que le monde de Montréal avait l'impression qu'il nous faisait vivre. Puis moi, j'ai toujours pensé le contraire. Là. Ça fait que là, bon, maintenant, il y a eu comme une conjoncture qui a fait que je me suis présenté. Puis j'ai toujours été nationaliste de toute façon, indépendantiste. Ça fait que, tu sais, ça a fait qu'un bon moment donné...
Ça fonctionnait.
Ça a fonctionné, là. Puis j'ai été très heureux de cette période-là. J'ai donné tout mon cœur. Puis j'aimais ça. Puis je me sentais... porteur d'une mission de défendre notre territoire. Mais il faut dire aussi que j'ai toujours été régionaliste avant d'être nationaliste. Là, je le suis encore. Là, puis même que je te dirais que dans les derniers mois, je me demande si le Saguenay-Lac-Saint-Jean ne devrait pas faire un pays. Dans ma réflexion, là...
T'es rendu là.
Oui, je suis rendu là à me poser la question. C'est sûr qu'il y a des embûches, etc., mais il y a 97 pays qui ont un territoire plus petit que le Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Ouais.
La moitié des pays de la planète sont plus petits que nous autres. Des ressources, on a à la tonne. Bon. Puis moi, j'aimerais ça de faire un exemple. Là. Comment est-ce qu'une région pourrait décider par elle-même? Puis moi, je pense que, pour moi, le développement, c'est lié à la décision... que tu prends par toi-même. C'est en prenant des décisions par toi-même que tu deviens plus grand, plus libre.
En t'organisant avant de te faire organiser.
Oui, c'est ça, c'est ça. Puis là, ben, c'est sûr qu'il y a des embûches, etc. T'sais, je ne suis pas rendu encore à choisir le drapeau du pays, comme on dit. Même que là, il y a déjà deux drapeaux, drapeau du Saguenay, drapeau du Lac-Saint-Jean. Là. Ça fait que ça, je maintiens ça, moi. Mais c'est peut-être pour avoir un pays, deux provinces. Là. Bon.
mais on peut rêver.
Mais tu sais, je réfléchis à ça. Ouais. Puis je me dis que ça vaut la peine de lancer l'idée parce que, de toute façon, on le voit, là, les grandes organisations sont plus capables de répondre adéquatement à ce qui existe. Là. C'est que là, le Canada, c'est trop grand pour être capable de prendre des décisions souvent rationnelles. C'est
parce que les réalités sont tellement différentes.
Ah oui, les réalités sont tellement différentes.
On le sait ici, les réalités sont différentes entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean.
Oui.
Fait que, entre Péribonka et Victoria, là...
C'est pas tout à fait la même chose. T'sais. Puis moi, je pense qu'il faut rapprocher le pouvoir des citoyens. Il faut responsabiliser les citoyens. Puis être capable de leur dire, puis c'est sûr aussi qu'il y a un paquet de monde, là, vous commencez à parler de ça un peu, puis du monde, c'est complètement ridicule, puis le kit, là. Mais tout ce qui existe aujourd'hui était ridicule auparavant. Là. Faire des avions, c'était ridicule. La démocratie, c'était ridicule, etc. Puis moi, je pense qu'on a à trouver des solutions adaptées aux problèmes qu'on a, puis on le voit aujourd'hui, là, que, tu sais, la politique ne fait plus rêver. Puis ça, c'est un problème majeur. À partir du moment où la politique ne fait plus rêver, le monde s'en détache. Puis quand il s'en détache, bien là, il arrive des pseudo-dictateurs comme genre Donald Trump, puis qui faisait qu'il... T'sais, puis ça, c'est des genres d'affaires, moi, qui m'inquiètent beaucoup. Là, t'sais. Puis si on décentralise, mettons qu'on fait des plus petits pays, il y a moins de danger que des imbéciles comme Donald Trump, des dangereux personnages comme lui, prennent le contrôle d'immenses territoires. Mm-hmm. Tu sais, c'est que là, prenons un exemple bien terre à terre. Alors, admettons que Hitler, il aurait été maire ou il aurait été, mettons, préfet ou il aurait été président d'une petite ville. Là. Il n'aurait pas fait les dommages qu'il a fait là. Tu sais, c'est parce que là, il était chef d'une grande nation.
Il y avait
les
possibilités.
Ben, c'est ça. Puis moi, je pense qu'on doit réfléchir à ça. On a, T'sais, il faut faire évoluer notre démocratie. Puis je suis persuadé que l'évolution de la démocratie va se faire dans le rapprochement des décisions des citoyens, de les responsabiliser, puis aussi de leur permettre de vivre des choses différemment d'un endroit à l'autre. T'sais, la réalité d'une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pas grand-chose à voir, mettons, avec la réalité du monde à Montréal, au centre-ville. Là, t'sais, c'est que là, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir les mêmes lois dans des endroits totalement différents? T'sais, puis moi, je pense qu'il faut rester démocratique. Mais il faut être adapté au territoire qu'on a.
Territorialité, c'est écouter ça. Les gens.
C'est ça.
Fait que de tout ça, tu as été député. Aujourd'hui, tu n'es plus député, tu es un citoyen de Péribonka. C'est quoi les projets? C'est quoi l'avenir pour Denis Trottier? Qu'est-ce qu'il voit là pour lui? Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour le temps? C'est du repos ou c'est d'autres projets?
Le repos, parce que j'ai moins de capacité. Là. Ça, c'est une affaire qui me tanne. J'ai moins de capacité qu'avant. Là. Puis ça, c'est l'âge. Hein, ouais. 68 ans, bientôt 69 ans. Mais j'essaie de me garder en forme. Là. Ça, pour moi, c'est important. Là. Puis avant ça, là, quand j'étais plus jeune, si je travaillais pas un minimum de 60 heures, j'étais découragé de moi. Là. Je me disais, je suis bien paresseux, puis le kit. Mais là, aujourd'hui, même si je fais une petite semaine de 40 heures, c'est bien correct. Ça fait pareil. Puis là, j'essaie de trouver des implications différentes. Comme là, je suis en train d'écrire un roman politique dont l'histoire va se passer à Péribonka. Est-ce que ce sera publié ou pas? Je ne le sais pas. Mais je vais essayer de m'impliquer, mais en prenant d'autres filières. Tu sais, parce que je ne peux plus refaire de la politique rendue à mon âge. Je pense qu'il y a un âge pour ça, là. Il faut de temps
en temps.
On parlera
de Joe Biden.
Mais il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. C'est que là, de manière générale, tu sais, je ne voudrais pas empêcher des gens qui ont plein d'allures de poursuivre. Tu sais, je me rappelle de François Vendron, qui est resté pas mal longtemps, puis qui faisait encore une bonne job, à mon avis, là. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Puis aussi, c'est que peut-être qu'il faut trouver le moyen d'agir différemment, tout en se permettant de... Puis moi, j'ai pas été souvent chez nous, puis là, j'essaye, en tout cas, de profiter de la vie un peu, ce que j'ai pas eu le temps de faire très souvent, pour ne pas ce que la vie nous réserve, hein, ce fait-là. Fait que j'essaie de trouver un équilibre là-dedans. Je propose des affaires, puis j'essaie de faire réfléchir. Je vais rester un citoyen actif, mais... pas sur la première ligne, tu sais, on pourrait dire plus en...
T'as pas le goût d'être une belle-mère. T'as le goût d'être plutôt actif puis d'avoir encore tes projets.
Oui, puis tu sais, puis je m'occupe de toutes sortes de petites affaires, là, mais de façon, on pourrait dire, moins permanente. Tu sais, avant ça, c'était jour et nuit. Là, c'est le jour, pas la fin de semaine.
c'est correct. Hey, Denis Trottier, merci beaucoup. L'objectif était d'en apprendre sur toi, puis je pense qu'on a fait un beau bilan de ta vie, puis en te souhaitant qu'il en reste encore plein des beaux projets, parce que tu étais un actif, même s'il y a des gens qui n'étaient peut-être pas d'accord avec tes projets ou tes idées, je pense que personne ne peut nier que tu étais un actif, puis tu as fait avancer la communauté, ou en tout cas la MRC Marie-Chapdelaine. Merci beaucoup.
Ben, ça m'a fait plaisir, puis tu sais, on peut pas faire l'unanimité, puis ça, il faut accepter ça, hein, puis je pense que quand on est actif, on reçoit aussi quand on est actif, là, puis j'espère continuer de...
Ça t'a bien nourri?
Oui, ça m'a bien nourri et je vais continuer modérément.
Merci. Merci beaucoup.
Au plaisir. We'll be right back.